Imagine créer un parc national, mais au lieu de virer les humains et de mettre des barrières partout, bah on y garde des champs de tabac, des milliers de kayaks et même un pont qu'on abandonne volontairement aux cruches chaque hiver.
Ouais, c'est un pari super audacieux. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vallée de la Semois en Belgique. En fait, nos sources pour cette petite immersion nous emmènent dans ce territoire de presque 29 000 hectares.
C'est devenu le tout premier parc national de Wallonie en 2022, c'est bien ça?
C'est ça, oui. Et tout l'enjeu, c'est vraiment de ne pas mettre la nature sous cloche. Ils veulent trouver un équilibre durable entre la présence humaine historique et cet écosystème sauvage.
Ok, décortiquons tout ça. Pour comprendre ce qui s'y passe, il faut d'abord regarder le sol, en fait. Tout part de la géologie.
Totalement. On est sur un socle schisteux, donc de la roche très dure.
Qui veut dire que la rivière peut pas juste creuser tout droit.
Voilà, elle doit contourner, chercher les failles. Ça crée ces fameux méandres très encaissés. La rivière principale fait 167 km, mais avec tous les petits affluents, on arrive à un réseau de 690 km.
C'est gigantesque. C'est un peu comme le système sanguin d'un organisme vivant géant. Et avec ça, on voit le retour de grands prédateurs, genre le lynx ou la loutre d'Europe.
À la loutre, oui, c'est un super exemple. Pour la protéger, ils ont installé ce qu'on appelle des loutre-ducs.
Alors, quand j'ai lu ça, j'imaginais direct de gros tuyaux en plastique fluo.
Bah non, c'est beaucoup plus malin. Ce sont juste de petites banquettes sèches aménagées sous les ponts routiers. En fait, la loutre dépeste nageait à contre-courant dans un passage étroit.
Donc, sans ça, elle sortirait de l'eau pour traverser la route et risquerait de se faire écraser.
Exactement. Là, elle passe sous le pont, au sec, tranquillement.
Hyper ingénieux. Mais alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour le reste de l'écosystème? Parce que ce système sanguin dont on parlait, il a aussi ses propres virus, non? Comment on les combat?
Ouais, tu parles des espèces invasives, le raton laveur et la bernache du Canada, par exemple.
C'est ça. Mais pourquoi ces intrus posent un tel problème alors que la nature locale est censée être super robuste?
Bah, c'est un peu comme jouer au Monopoly avec quelqu'un qui se sert dans la banque quand il veut, tu vois. Ces espèces n'ont aucun prédateur naturel ici. Du coup, elles mangent tout, elles prennent toute la place, et ça met une pression dingue sur les espèces locales. Le parc est obligé d'intervenir pour réguler tout ça.
D'accord. Et cette géographie tourmentée, elle n'a pas seulement façonné la faune, ça a aussi forcé les habitants à s'adapter d'une façon assez ouf.
Oui, l'isolement de la vallée a créé une vraie ingéniosité locale.
On parle quand même d'un endroit qu'on a appelé le Petit Cuba Ardennais.
Ah oui, le fameux tabac Burley, introduit en 1855. Les locaux ont vite compris que le sol schisteux et l'humidité constante de la rivière, c'était le combo parfait pour le tabac.
C'est fou.
Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'exemple ultime de cette adaptation, c'est le pont de Claix de la Forêt.
Un pont de 80 mètres, tressé entièrement à la main, avec des branches de charme et de noisetiers.
Et les habitants passent des semaines à le construire, alors qu'ils savent très bien que la rivière va le pulvériser aux prochaines crues d'hiver. Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est intentionnel. C'est de l'ingéniosité millénaire. Au lieu de se battre contre l'eau avec un mur de pierre énorme, on accepte la crue.
Sa fragilité est sa plus grande force, en fait.
C'est ça. Le pont est emporté, on lutte pas et on le reconstruit tranquillement à la saison sèche. C'est une durabilité naturelle, très loin de nos standards modernes en béton.
C'est super poétique. Sauf qu'aujourd'hui, on a un afflux touristique massif. Comment on fait pour gérer tout ce monde d'ici 2026 sans détruire le charme de la région?
Si on relie ça à la vue d'ensemble, c'est le grand défi de ce parc. Il faut canaliser cet afflux. Pour les kayaks, par exemple, c'est fini la navigation libre.
Ils ont mis en place un système de phase rouge, c'est ça?
Absolument. Si le niveau de l'eau est trop bas, paf, interdiction de naviguer. Ça évite que les kayaks raclent et détruisent le fond du cours d'eau.
Et pour les nouvelles infrastructures pour le public, je pense à la plateforme au point de vue du jambon.
Ils utilisent de l'acier Corten. C'est un acier qui rouille en surface exprès pour prendre une couleur brune qui se fond avec la forêt.
Malin. Et j'imagine que tout ce développement demande un budget énorme.
Oui, mais il y a une vraie synergie financière. La région Wallonne finance à 80% avec l'aide du WWF.
Ce qui permet aussi de s'attaquer à des chantiers bien plus vastes, genre le projet European Open Rivers.
Ouais, là, on parle carrément de démanteler physiquement de vieux barrages obsolètes pour rendre à la Semois son cours naturel et laisser les sédiments circuler.
Donc, au final, cette immersion prouve qu'un territoire protégé n'a pas besoin d'être mis sous cloche. La présence humaine peut s'intégrer à la nature si elle est bien gérée.
C'est tout à fait ça. Et cela soulève une question importante.
Je t'écoute.
Ben, à l'heure où les bouleversements climatiques provoquent des crues qui pulvérisent nos infrastructures modernes, on devrait peut-être s'inspirer de l'humilité du pont de la forêt.
C'est clair, au lieu de construire des murs toujours plus hauts.
Exactement. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt concevoir des architectures capables de plier, d'accepter le cycle naturel et de vivre avec le fleuve, plutôt que d'essayer vainement de le dompter ?